Eh bien, amis auditeurs, nous sommes donc de nouveau avec vous pour la deuxième moitié de cette émission Rencontre. Alors, j'ai intitulé cette émission Que devient la fraternité d'Abraham? La fraternité d'Abraham est une vieille association qui a fêté son cinquantenaire il y a pas longtemps, et donc qui œuvre pour le dialogue entre les religions, monothéistes, judaïsme, christianisme, islam. Et j'ai le plaisir donc de recevoir son président, Monsieur Edmond Lille. Alors, Edmond Lille, l'une des réalisations les plus remarquables depuis 6 ans de la Fraternité d'Abraham, a été la création de la Fondation Éthique et Économie. Elle a été en fait cofondée avec l'Académie des sciences morales et politiques, et c'est ainsi qu'ont été proposées au public des conférences de très haut niveau dans l'enceinte prestigieuse de l'Institut, hein, qui abrite aussi l'Académie française. Et je conserve à titre personnel un souvenir marquant de ces soirées. Nous avons entendu des personnalités brillantes, entre autres un prix Nobel d'économie, le secrétaire général de l'OCDE, le grand rabbin de France, et j'en oublie beaucoup. Quel est le lien entre cette fondation et le message général de la fraternité d'Abraham?
Eh bien, je crois qu'il faut ici revenir finalement au fonctionnement des sociétés. Et la personne qui nous a incité à la fraternité à lancer ce programme, c'est l'ancien conseiller économique et financier du président Georges Pompidou, Bernard Ezembert. Et je vous recommande l'histoire de retracée dans son livre, dans les coulisses du pouvoir de la Ve République. Bernard Ezembert est venu nous trouver en 2009 en disant à la fraternité, écoutez, la crise qu'on vient de vivre, 2007-2008, et dont on n'est pas sorti, n'est pas une crise technique ou du mauvais fonctionnement. C'est essentiellement une crise d'origine morale et éthique. C'est que les dirigeants des grandes entreprises, les dirigeants politiques, ne se soucient aucunement de respecter les lois morales les plus élémentaires dans la conduite de la société. Et il faut absolument que les religions rappellent ce message qu'elles ont constamment dit dès les 10 paroles du Sinaï. On vous dit, tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne médiras pas, etc. Bon. Et ceci a été repris dans l'islam et c'est le message constant développé par les religions. Il faut qu'on soit solidaire. Et au cours de la série de conférences que vous rappeliez à l'Institut de France, j'ai été très impressionné par l'intervention du grand rabbin Chaim Korsia, qui a parlé comme grand rabbin, bien sûr, mais il a surtout dit, une société où ne règne pas la confiance, ça ne peut pas marcher. Si je triche. Si je triche quand j'ai affaire à mes relations d'affaires, la confiance, je peux réussir une fois, mais pas deux fois, pas trois fois. Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de confiance. On n'emploie pas, on n'investit pas, on ne crée pas de la richesse.
Bien, c'est très clair, on voit bien le lien effectivement entre l'économie et l'éthique des religions. Alors, la fraternité d'Abraham propose maintenant d'autres conférences. Cette fois-ci, donc, c'est directement en rapport avec ses fondamentaux, puisqu'il s'agit d'un cycle intitulé La Méditerranée, berceau et devenir de l'Europe à la lumière du rôle et de l'évolution des religions abrahamiques. Alors, ce cycle est organisé par la fraternité, bien sûr, mais en collaboration avec l'Institut Elie Wiesel, le Collège des Bernardins et l'Institut Ibn Azali. Est-ce que vous pouvez nous présenter, mais rapidement, parce qu'il y a plein de conférences, mais disons l'essentiel de ce programme?
Alors l'idée qui a prévalu, nous parlons de ce projet depuis 2 ans, nous travaillons étroitement depuis 2 ans avec tous nos partenaires, et nous avons eu le plein soutien justement du grand rabbin de France, mais aussi de Monseigneur Beau, qui était le président du Collège des Bernardins. L'idée, c'était de reprendre toute l'histoire des civilisations euro-méditerranéennes autour du bassin méditerranéen depuis en remontant à l'époque d'Abraham, et puis montrant sur ces quelques 3000 ans, 3000 et quelques, comment en même temps, les civilisations du pourtour du bassin méditerranéen et dont l'Europe du Nord, entre autres, et le Proche-Orient, se sont développées historiquement. La présence grecque, la culture grecque, l'Empire romain, etc., qui ont succédé avec des guerres, mais aussi avec beaucoup de commerce et le changement des idées, trafic des idées, etc. Comment ces civilisations se sont développées à travers les guerres et le commerce et le transfert des idées, et comment en même temps les religions se sont développées en s'adaptant, en infléchissant et puis en évoluant. Tout ceci, ce développement parallèle et systématique, afin que nous connaissions mieux nos origines,
Alors,
qui nous sommes et d'où nous venons.
donc ça, c'est nos origines en tant que société, en tant que civilisation. Je crois que vous avez commencé aussi par, j'allais dire, les pères fondateurs un peu de
Absolument.
chacune de ces
Nous avons
religions.
eu, notre prochaine conférence aura lieu après-demain. La première conférence était sur Abraham, sur ses deux fils, mais également sur ses deux femmes.
Oui.
Et ça a été tout à fait remarquable. Alors, là, le point de vue juif, le point de vue chrétien, le point de vue musulman. La deuxième conférence qui a lieu après-demain, ce sera sur Moïse.
Sur Moïse, oui.
Avec là aussi trois intervenants, un juif, un chrétien, un musulman. La troisième aura lieu sur Jésus, 15 jours plus tard. Là aussi, avec les trois intervenants, les trois conférences. Et la quatrième aura lieu sur Mohamed en janvier. Là aussi, trois intervenants.
Alors, on va sur le site pour pouvoir
absolument.
S'inscrire.
Toutes les conditions d'accès, parce que comme nous faisons ça en partenariat, et c'est très important de souligner ce partenariat étroit entre trois instituts culturels et culturels que sont le Collège des Bernardins, l'Institut Elie Wiesel, culture juive, et l'Institut El Ghazali, rattaché à la mosquée de Paris, mais qui forme les imams et les aumôniers, mais qui va au-delà de cette fonction culturelle et accède au statut d'institut universitaire, développant des diplômes universitaires. Alors, le partenariat avec ces trois instituts académiques est fondamental pour nous.
Alors, chère présidente, ça me donne une transition un peu idéale pour la question suivante, et je reviens un peu sur un sujet qu'on avait déjà abordé, mais c'était il y a 6 ans déjà. Qu'il s'agisse de nos conférences, de nos publications ou de nos projets divers, il y a des personnalités musulmanes qui nous apportent beaucoup. On vient de citer l'Institut Ibn Ghazali, et c'est pas le seul, et on les voit, ils sont dans notre comité directeur et ils nous aident. Mais quand même, globalement, les musulmans restent assez frileux. Je me base par exemple sur le public des conférences, en fait, ou sur les contributions que l'on peut avoir au niveau de notre site, qui sont publiées, que peuvent voir nos auditeurs. Comment faire bouger les choses ?
Eh bien, c'est une des activités, je crois, une des préoccupations fortes de la fraternité et de la mienne personnellement. Parce que, l'islam est présent en France, mais depuis pas très longtemps, malgré tout. Et nous sentons chez nos amis musulmans qu'ils ont des difficultés entre eux. Il y a beaucoup de conflits partout dans le monde entre l'islam. On voit l'islam comme une religion agressive qui veut dominer le monde, etc. C'est le message que fait passer Daesh. Et nous, à la fraternité, je veux absolument que nous soyons contre cette image que partagent malheureusement trop de nos concitoyens. L'islam est une religion comme les autres. Les musulmans de France sont des citoyens français de confession musulmane, comme il y a des citoyens français de confession juive ou chrétienne ou de pas de confession du tout. Et je dois dire que les textes que publient les plus hautes autorités de l'islam en France affirment ceci régulièrement. Les textes de la mosquée, j'en ai plusieurs sous les yeux, affirment que l'islam est une religion qui est arrivée en France récemment, mais que tous les citoyens musulmans d'abord souscrivent à la loi française et que c'est celle-ci qui prime en toutes circonstances. Et que les musulmans en France sont des citoyens français avant tout.
Alors, ça, c'est important, parce qu'on arrive petit à petit à la conclusion avec la dernière question, qui est l'image de l'islam. On le voit bien dans les sondages d'opinion. Il y a à peu près à part égale, alors, tantôt plutôt d'un côté, tantôt plutôt de l'autre. Deux parties chez nos compatriotes. Il y en a qui effectivement, disent que ce n'est pas une religion qui peut s'intégrer à la France pour des tas de raisons. Et puis, il y en a d'autres qui disent, comme tu viens de le dire à l'instant, mais pas du tout. D'ailleurs, il y a cette volonté de la part des institutions culturelles musulmanes de respecter donc toutes les lois de la République. Il y a aussi un autre problème, c'est la question de l'antisémitisme. Il y a eu une douzaine d'assassinats, donc là, qui venaient de musulmans radicalisés, il n'y a pas de discussion pour ce qui est de la France. Mais on vient de le voir, malheureusement, avec l'horreur de la synagogue de Pittsburgh, où c'est un chrétien d'extrême droite, un illuminé néo-nazi qui a tué des juifs. Il n'était pas du tout musulman. Donc voilà, il y a ceux qui ne voient le danger que dans l'extrême droite, il y a ceux qui ne voient le danger que dans l'islam radicalisé. Et c'est ma toute dernière question dans les 3 minutes qui restent. Comment faire entendre une voix nuancée ?
Alors ici, il faut que nous fassions mieux connaître les proclamations les plus officielles de l'islam de France à travers les autorités spirituelles, le Conseil français de culture musulman. On a publié dans la revue à plusieurs reprises des textes fondamentaux. En tout premier lieu, en 2015, lorsqu'ils ont condamné les attentats de 2015. Un texte tout à fait clair, très détaillé, en condamnant fondamentalement, sans aucune équivoque, les criminels qui ont commis ces meurtres, ces attentats, au nom de l'islam, moyennant quoi ils se sont mis en dehors de l'islam.
Alors c'est important de le dire parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, qui disent les responsables musulmans ne se positionnent pas. Ils se positionnent, ensuite on peut...
Ils se positionnent de manière très très nette.
Par rapport aux terroristes, c'est net. Bon, on peut ensuite faire des critiques sur d'autres sujets, mais sur ce plan-là, il n'y a pas de discussion. Mais est-ce que finalement... On voit que le problème, ce n'est pas seulement les musulmans et les autres, c'est à l'intérieur du pays. Il y a des gens qui ont une vision trop rose, des gens qui ont une vision trop noire. Comment leur faire passer un message de vérité ?
Il faut dire que la majorité de nos concitoyens connaissent mal l'islam. L'islam en France n'est pas unique. L'islam, il y a d'abord les deux grandes traditions maghrébines, l'Algérie et le Maroc, qui, hélas, il faut le reconnaître ici, combattent entre eux.
Voilà.
Au sujet du Sahara occidental, par exemple. Mmh. Et il n'y a pas de commerce entre les deux pays, c'est d'avant, mais ça, on n'y peut rien. Et la France essaie d'avoir des rapports fraternels avec chacun de ces pays et essayer de les aider à mieux s'entendre.
Ça ne facilite pas les choses. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission. Merci Edmond Lille d'avoir donné tous ces éclairages, parce que ce sont des éclairages liés à l'actualité, liés à la géopolitique, à l'histoire. On est toujours ébloui d'ailleurs de vous entendre, parce qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que nos auditeurs auront été ravis. C'est un échange toujours trop bref, mais je pense qu'il leur aura donné l'envie de connaître la fraternité d'Abraham, d'aller sur son site et, espérons-le, pourquoi pas, d'adhérer, de participer à ces nobles activités.
Merci de votre accueil.
Merci Edmond Lille. Merci, amis auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir.
Rencontre,
une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.